Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges. Olivier Prince-Groslot qui est avec vous en cette nuit, on doit le dire, parce que au moment d'enregistrer ceci, il est 2h13 du matin, le 2 mai. Donc, mais on revient sur les matchs du 30 avril, donc déjà rendu au mois de mai. Ça avance vite, ces séries. La première ronde qui est déjà terminée, en fait, qui s'est terminée ce soir, mais... Ce n'est pas du match de ce soir qu'on va parler, mais plutôt de celui entre les Bruins et les Panthers, ainsi que le match entre l'Avalanche et le Kraken, donc ceux qui ont eu lieu le 30 avril. Deux matchs qui ont causé de grandes surprises après la veille où est-ce que Toronto avait enfin passé au travers de la deuxième ronde, avait vaincu la malédiction de la première ronde. Eh bien, on avait... deux autres grosses affiches le lendemain, les Bruins et les Panthers. Les Bruins, je vous le rappelle, record de points dans une saison régulière dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Bon, oui, à l'époque où, dans une époque où il y a des prolongations et des tirs de barrage, quand même, c'est un record qui a été battu complètement exceptionnel. Et c'était personne, à peu près personne ne s'attendait à ce que les Panthers puissent avoir une quelconque chance contre les Bruins. Et finalement, en match numéro 7, les Panthers ont surmonté un retard de 3 matchs à 1. Et c'est maintenant 3-3. L'égalité dans cette série avec tout un match au programme. L'autre match, c'était le Kraken contre l'Avalanche. Une autre surprise ici parce que l'Avalanche sont les champions de la Coupe Stanley. Et le Kraken, ben, on va y venir plus tard, mais vraiment surpris les amateurs dans cette série-là aussi. Mais si l'on commence par notre tout premier match de la soirée en question, bien, je viens de le nommer Bruins Panthers. Un match, encore une fois, très offensif. On a eu des matchs assez offensifs dans cette série-là, si je ne m'abuse. Là, et qui ce match-ci s'est terminé par la marque de... Ce ne sera pas bien long, je vais vous dire ça, là, de 4 à 3 pour les Panthers, quand même. Ça, c'est la série, je suis complètement désolé. Ça va y aller. Oui, 4 à 3 en prolongation, j'étais mêlé. L'affichage de mon site, où avec le pointage, faisait des caprices, voilà. Puis, on est fatigué, ok, aussi, hein, 2h15 du matin. Merci, mais poursuivons. C'est ça, un match remporté 4-3 par les Panthers. Voyons. Pardonnez-moi ces moments de silence. Voilà, OK. Donc, c'est Brandon Montour qui ouvre la marque pour les Panthers. Encore une fois, les Panthers qui marquent le premier but dans ce match, c'est arrivé le match précédent, le match numéro 6 dans cette série-là, c'était Montour qui avait ouvert la marque également. Et Bobrovsky a une passe sur ce but en avantage numérique. Et il faut dire, du côté des Bruins, on avait embarqué dans la mêlée Jeremy Swayman qui jouait son premier match en série, alors que c'était Ullmark qui avait eu tous les départs jusqu'à maintenant. Et pas le meilleur but accordé, celui de le premier de Montour. Sam Reinhart également, une très bonne série pour lui. Quatrième but de la série. Fait 2-0 pour les Panthers. Et là, on est au TD Garden dans un match numéro 7 où les Bruins sont hautement favoris. Les partisans des Bruins ne se sentent vraiment pas bien. Mais l'espoir va renaître du côté des Bruins. Ben, en fait, l'inquiétude plutôt va quitter les partisans parce que David Krejci choisit un très bon moment pour inscrire son premier but dans ces séries-là. Dimitri Orlov, déjà une 7e passe là, sur ce but. C'est en avantage numérique lui aussi. Encore un avantage numérique en troisième période. C'est 2-1 après 2 pour les Panthers. Troisième période, encore une fois, très offensive. Je pense que le dernier match aussi, elle était bien offensive. Bertuzzi va créer l'égalité. C'est l'hystérie chez les Bruins. C'est dans les partisans du TD Garden. Bertuzzi qui ouvre la marque. Pas qui ouvre la marque, mais qui fait 2-2 plutôt. Et qui va donner l'avantage aux Bruins, qui d'autre que David Pasternak. Un but que Bobrovsky aurait dû arrêter, honnêtement. Là, un tir de Brandon Carlo, distant, à ras la glace pratiquement. Mauvaise gestion du retour de la part de Bobrovsky qui donne ça directement à David Pasternak. Facile pour lui, prendre le retour de très belle façon et le met dans la cage qui laissait presque vide là, par Bobrovsky en raison de sa mauvaise décision, sa mauvaise gestion du retour. Déjà un cinquième pour Pasternak dans ces séries-là, tout comme Bertuzzi, et ça sera son dernier car on sait ce qu'il advient des Panthers. Brandon Montour, quelle série! 3 buts en 2 matchs pour lui, si je ne m'abuse. Son 5e but de la série. Barkov et Verhaeghe, on les passe. Cinq passes pour Barkov. Barkov est un élément du côté des Panthers qu'on aurait voulu voir beaucoup plus dans cette série, qu'on doit avoir plus contre les Maple Leafs de Toronto au prochain tour. Mais quand même, c'est 5 passes. C'est 5 passes, faut pas le dire. Faut pas minimiser cela, mais c'est vraiment pas... La feuille de pointage ne montre pas tant que ça l'implication qu'a eu Barkov, les attentes qu'on avait par rapport à l'implication de Barkov, qui est un excellent joueur, vanté comme étant l'un des meilleurs centres autant offensifs que défensifs dans la Ligue nationale. Bien là, dans ces séries, trop timide à mon goût et à celui de plusieurs, je pense bien. Mais bref, Brandon Montour, il restait 1 minute à faire à la 3e période et il va marquer un autre but tellement important pour les Panthers. Les Bruins tenaient 1 minute de plus et se rendaient en 2e ronde. Pas de... la grosse surprise aurait été évitée, mais ce n'est pas ce qui se passe. On s'en va plutôt en prolongation. Qu'est-ce qui arrive en prolongation? Si je me rappelle bien, Bobrovsky a fait quand même de bons arrêts en prolongation, mais c'est les Panthers à 8-35 de cette prolongation. C'est Carter Verhaeghe, seulement son 2e de la série, mais a déjà eu une meilleure présence, selon moi, que Barkov dans ses séries. 1/8 point quand même. Fait qu'un 2e but, mais 1/8 point. Aidé de Bennett et Tkachuk. Tkachuk, encore un gros match, encore une grosse... Lui, on l'a senti en série, Matthew Tkachuk. Et Verhaeghe, voilà, un bon tir. Tout simplement, qui bat... un tir qui est très vif, qui entre dans le filet, il ressort quelques... fraction de seconde plus tard, mais voilà, c'est assez pour battre Jeremy Swayman. Et c'est ainsi que le match et la série se terminent. Les Panthers de la Floride battent les recordmen, si je peux appeler ça ainsi, que sont les joueurs des Bruins de Boston. Quel exploit de la part des Panthers, personne ne s'y attendait à ça. Pour les partisans du Canadien, ne vous en faites pas trop si vous pensez au choix. Au choix que des Panthers que là on possède, en fait. Donc, ceux qui espèrent que les Panthers soient éliminés le plus rapidement possible. En étant éliminés en 2e ronde, les Panthers auraient quand même eu le 17e choix, ce qu'on est celui qu'on est censé avoir, je crois. Mais autour de ce choix-là ou ce choix-là exactement, je ne sais plus trop. Mais c'est bien ce que j'ai lu. Donc, si les Panthers sont éliminés en 2e ronde, on a encore. Dans la même région de choix qu'on était censé avoir s'ils étaient éliminés en 1e ronde. Donc, ne vous en faites pas trop. Sauf s'ils continuent plus loin que cela. Bref, voilà, dans cette série-là, mais en fait, dans ce match-là, grosse chose qui ressort, c'est est-ce qu'on a pris la bonne décision de faire entrer Jeremy Swayman du côté de Jim Montgomery et des Bruins? On parlait de ça dans le dernier épisode avec Vincent Tardif, entre autres, ben pas dans le dernier épisode, mais celui d'il y a deux jours, de quoi avec entre autres M. Tardif. Et je crois que Grégory était là. Bref, peu importe. M. Tardif disait, Vincent Tardif, le vénérable, disait que selon lui, ce n'était pas une bonne idée de faire entrer. Swayman en match numéro 7. Ulmer a gardé les 6 buts. Oui, il n'a pas été excellent, on se rappelle. Match numéro 5, sa grosse faute. N'a pas été excellent dans le match numéro 6 non plus. Mais de faire entrer un 7e gardien, un 2e gardien au 7e match, c'est tellement risqué. Il n'a pas embarqué dans une série. Il entre au moment, au match le plus crucial. Je seconde M. Tardif dans cette voie-là. Je dis M. Tardif, mais c'est Vincent. Là. C'est bien drôle. La façon dont je l'appelle, voilà. Et C'est ça, le faire entrer en match numéro 7, un gardien qui n'a connu aucun moment dans cette série-là, c'est extrêmement risqué. Je pense que ce qui aurait dû être fait si l'on voulait changer de gardien, c'est de le changer au match numéro 6, ce qu'on n'a pas fait. Lancer dans la mêlée un gardien débutant en série, pour cette série-là, risqué, effectivement. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Là, je n'ai pas été fumant devant les buts tant que ça. Jeremy Swayman. Les Blues, quand même, tout au long du match, ont eu de très bonnes occasions de marquer. Mais Bobrovsky a été pas toujours bon, mais a fait le travail. Et les Panthers surprennent, de par leur échec avant, peut-être. Bon, on n'a pas tant de mise en échec que ça, mais écoute, l'avantage numérique, Brandon Montour, manque d'opportunistes du côté des Blues aussi. À un moment donné, on a 36 tirs, on a plusieurs occasions de marquer. Et on finit avec 3 buts. On aurait pu marquer plus du côté des Blues, c'est certain. Défensivement aussi, ça a été décevant dans cette série du côté des Blues. Je veux dire, des revirements qu'on ne voyait pas durant la saison régulière ou presque pas. Je pense à Connor Clifton. Je ne sais pas s'il avait été retiré dans l'alignement, Connor Clifton, pour ce match-ci. C'est une bonne question. Mais voilà, c'est un nom en particulier, mais c'est pas seulement lui que je vise. Vous voyez, Clifton n'était pas l'alignement. C'était Carlo Lindholm, Forbert, Grizzlick, McAvoy et Orlov du côté des Bruins en défense. Donc, on avait retiré Clifton, mais beaucoup de revirements de sa part, mais d'autres jeux côté de Bostonais qu'on appliquait mal et qu'on faisait beaucoup mieux en saison régulière. C'est les crédits aux Panthers d'avoir ébranlé cette confiance-là des Bruins, d'avoir ébranlé ce système de jeu qui avait tenu si efficacement pendant tellement de matchs. Et là, sur une période de 7 matchs, ben, on n'est pas capable de sortir victorieux du côté des Blues. Bravo aux Panthers. Pour moi, je crois que c'est vraiment une porte ouverte du côté des Leafs de Toronto qui peuvent se débarrasser des Panthers, je crois, avec la confiance qu'ils ont gagnée en battant le Lightning puis en mettant enfin fin à cette malédiction-là. Moi, je dis attention à Toronto, mais les Panthers peuvent très bien surprendre une autre équipe que les Bruins et une excellente équipe, celle des Leafs, mais les Panthers ont éliminé les Bruins, peuvent très bien éliminer n'importe qui à partir de maintenant. Les séries, c'est une autre saison. Mais avant qu'on passe au premier match, il faut seulement que je parle de la scène finale de Patrice Bergeron qui sort de la patinoire et tous ses coéquipiers, un à tour de l'autre, vont le saluer accolade, quelques mots. Comme si c'était la fin. Oui, c'est le capitaine. Oui, c'est la fin de saison, mais il y avait quelque chose de plus là-dedans. Ce n'est pas nécessairement tous les capitaines qui vont faire ces gestes-là et parler autant. Comme si c'est tellement officiel, tellement comme si c'était une cérémonie ou presque. Et c'est très touchant. Patrice Bergeon, québécois, mais surtout gentleman. Quel homme gentil, humble. Tout ce que j'ai entendu de Patrice Bergeron durant sa carrière, jamais du négatif. Et en plus, le joueur qu'il est, ça fit un peu avec sa personnalité, je trouve. Excelle défensivement, très bon offensivement. Le joueur complet un joueur complet, Patrice Bergeron est. Et j'ai l'impression qu'il est complet dans sa vie de tous les jours. Marie-moi, Patrice. Bref, Marie, qui tu veux, Patrice, mais reste que tu es tout un joueur de hockey, tout un gentleman. Et cette scène-là, hier, c'était beau à voir, même si je n'ai jamais été partisan des Blues. Patrice Bergeron est une icône du hockey québécois et du hockey tout court, là, honnêtement. Puis surtout à la fin, la dernière personne à qui il a serré. Dans ce qu'il a serré dans ses bras et qu'il a dit quelques mots, c'est Brad Marchand, son partenaire de toujours, qui lui. La retraite n'est pas confirmée. Marchand a dit dans son entrevue if. Donc, si il ne revenait pas, mais ça ressemblait vraiment beaucoup à des adieux du côté de Patrice Bergeron. On verra ça durant l'été, on suivra ça, mais ça sentait les adieux et c'était. Beau à voir, même c'était beau à voir, peu importe de quelle équipe tu es partisan, cette scène-là entre Bergeron et ses coéquipiers, spécialement entre Bergeron et Marchand, C'était beau. C'était un beau moment. Bref, allons-y. Sautons maintenant dans l'autre série entre l'Avalanche et le Kraken. Une autre surprise. Une autre énorme surprise. C'est fou. Le Kraken qui gagne 2-1 ce match-ci. Là, on va essayer de ne pas faire trop d'attendre aux auditeurs. Là, hein, même le sommaire est extrêmement simple. Ça fait terminer 2-1 en faveur du Kraken. Le sommaire du match, les buts sont tous en deuxième période. Bjorkstrand a le premier but du match. Le Kraken, dans tous les 7 matchs de cette série, ont le premier but de la rencontre. C'est phénoménal comme statistique. C'est incroyable. Mais, premièrement, oui, l'Avalanche a été capable de revenir 3 fois sur 4 dans ces matchs. Mais on parle de l'importance du premier but dans les séries éliminatoires, dans un match de séries éliminatoires. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça que le Kraken a fait. Et même s'ils affrontent les champions en titre, même s'ils affrontent une excellente équipe, tu sors gagnant cette série-là. Tout simplement parce que, pas parce que tu as marqué le premier but, parce que tu as une équipe équilibrée, travaillante, collectivement très soudée et forte. J'ai l'impression qu'est ce Kraken de Seattle-là. Et ils ont joué tour à l'avance. Mais voilà, sommaire, là, deuxième période, Bjorkstrand, premier but, qui est chanceux, il faut le dire. Ça rebondit sur lui et tout. Mais un but, c'est un but. L'opportuniste, c'est de l'opportunisme. La chance, c'est de la chance. Un peu des trois dans ce but du Kraken. Encore une fois, quelques minutes plus tard, Oliver Bjorkstrand, deuxième but, non seulement du match, deuxième but de la série. Et fait 2-0 pour le Kraken. Aussi simple que ça. Deuxième période, déjà, là, on sent le vent tourner un peu. Deuxième période, là, le Colorado s'active. McKinnon a joué un bon match, honnêtement. A eu des chances de marquer tout au long du match. Je crois que c'est au moins un but refusé là, pour c'était hors jeu, si je ne m'abuse, ou quelque chose dans le genre. McKinnon était là. McKinnon a eu des chances. Mais un peu comme tout au long de la série. J'ai l'impression qu'à la fois McKinnon et un peu à l'image de son équipe au complet, avait de très bonnes passes dans plusieurs des matchs. Mais ces passes-là, ces phases-là où il était dominant et où l'Avalanche au complet était dominant, parfois, le Kraken arrivait à ne pas encaisser de but dans ce temps fort du Colorado. Et il résistait et était capable de sauver parfois avec le match quand même ou d'aller marquer encore. Ce qui est très difficile à faire, ce qui est ce que l'Avalanche faisait aux autres équipes l'an passé, qu'on n'arrivait pas à arrêter l'engrenage. Mais là, le Kraken, en marquant tout le temps le premier but, se donnait un coussin et était capable de résister au temps fort du Colorado, de ne pas laisser pas tous les matchs, là, mais dans plusieurs matchs, dans 4 matchs au moins, qu'ils ont remportés, n'ont pas laissé Colorado prendre les larges et prendre une trop grande avance. Ce qu'on voyait l'an passé contre plein d'équipes en séminatoire, contre les 4 équipes, ça est probablement arrivé, là, que l'Avalanche a affronté l'an dernier. Donc, bref, chapeau Kraken pour ça. Absolument phénoménal. Ben, parlant de temps fort du Colorado, il y en a eu un là en fin de deuxième période. Et c'est Mikko Rantanen, lui aussi, 7e but dans ces séries-là. McKinnon et Toews ont les mentions d'être. McKinnon, 4e passe, je ne sais pas exactement à combien de buts McKinnon, mais même si ses points doivent être assez satisfaisants sur 7 matchs, ça ne doit pas être mauvais. Mais peu importe les points, McKinnon n'a pas joué une mauvaise série. Mikko Rantanen non plus 7 buts et je ne sais combien d'assistances. Un que j'aurais voulu voir plus son niveau dans le passé, qui aurait vraiment aidé s'il avait eu son niveau Conn Smythe dans le passé, c'est Cale Makar. Cale Makar n'était pas un figurant dans cette série, loin de là, mais n'était pas à l'image de l'an dernier. On n'a pas vu de gros jeux tant que ça de sa part. Même sur la feuille de pointage, c'est pas si impressionnant, je pense. Là, je n'ai pas les points devant moi, comme je vous dis. Mais McCarr en est un dans cette série qui aurait dû mieux faire. Et bien sûr, bon, il y a Nichushkin là, avec toute son histoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, si vous irez voir si ça vous intéresse, mais son histoire est déroutante là, et tu te demandes pourquoi c'est à ce moment-là que ça arrive dans les séries de notre 3, dans une période tellement importante d'une carrière d'un athlète et d'une vie. Là. Bref, vous irez voir ce qui s'est passé avec Valérie Nichushkin si vous le voulez. Mais voilà, Mikko Rantanen, c'est lui qui a marqué pour faire 2-1 dans ce match-là. En fin de deuxième période, il restait environ 30 secondes là, à la fin de la période. C'était très peu. Et finalement, troisième pas de but, l'Avalanche tente de revenir de l'arrière. Mais ce but à un Philippe Grubauer qui a joué tout un match de hockey. Beaucoup d'arrêts, je vous l'ai dit, là, l'Avalanche a eu quand même plusieurs chances de marquer 34 tirs. Un avantage numérique, c'est le seul avantage numérique dans la partie, 1 à 1. 29 tirs bloqués pour le Kraken, 29. Ça, c'est une statistique qu'on doit mentionner, 29 tirs pour le Kraken bloqué. C'est de l'excellent travail défensif. Là. C'est, bon, il y a 34 tirs qui ont touché la cible, mais combien ont raté la cible ou ont été bloqués par des défenseurs? Ben, au moins 29, la gang. C'est beaucoup de tirs tentés. Et Grubauer, dans ceux qui le fait face directement, a très bien fait. Accordé qu'un seul but, c'est 33 arrêts. Je vais vous dire c'est combien. C'est 971 d'efficacité. Aussi simple que ça. Des très gros arrêts sur bien des joueurs. Manque d'opportunisme du côté de l'Avalanche, il faut le dire. Manque un peu de chance aussi, le but refusé peut-être. Et, bref, il y a beaucoup de matchs qu'on est passé proche du côté de l'Avalanche comme celui-ci. De venir à bout du Kraken, de cette capacité du Kraken à freiner les temps forts, à empêcher l'Avalanche d'installer son rythme comme il le voudrait. Et bien, avec ce travail acharné-là, le Kraken réussit à passer l'Avalanche. Là, le prochain test pour eux, ce sont les Stars de Dallas. Qu'est-ce qui va se passer là, entre le Kraken et les Stars? Les Stars aussi ont une très grosse offensive. Je dirais peut-être même plus dangereuse que l'Avalanche en regardant bien ce qu'ils ont fait contre le Wild et en regardant l'alignement avec des Ince en feu, un Robertson, un Jamie Benn et un Tyler Seguin qui connaissent leur rôle, qui sont bons. Joe Pavelski, je crois, il me semble, je reviens au jeu dernièrement. Peut-être pas à 100% encore. Bref, Pavelski, qui normalement fait partie de leur top 6, qui on a d'autres. Heiskanen à la ligne bleue, Miro Heiskanen à la ligne bleue. On a un Jake Oettinger dans les buts qui est certainement meilleur qu'un Alexander Georgiev du côté de l'Avalanche. Ce sera une opposition très, très, très farouche au Kraken. Ils ont surpris l'Avalanche. Ils sont capables d'installer leur système de jeu contre une équipe rapide. L'Avalanche est assez rapide, mais les Stars le sont peut-être encore plus. Bref, à voir, là, mais quand même, dispose d'une bonne défensive aussi. Là, Ryan Suter, qui, oui, est lent et perd de la mobilité, mais quand même. Heiskanen, Esa Lindell, Akanpa. Bon, bref, je ne vais pas énumérer toute la défense, mais c'est quand même une défense pas pire. Bon, j'avoue que tu ne peux pas la comparer à celle de l'Avalanche, là, mais Corey Tazy et tout, mais c'est une très bonne équipe qui fait peur, là, les Stars, en ce moment, il faut le dire. Est-ce que le Kraken va être capable de surmonter ce défi-là? À voir, mais bonne chance à eux. Et l'équilibre entre tous les trios, les paires de défenseurs, la combativité, l'échec avant, la hargne, l'esprit de corps de cette équipe-là, chapeau au Kraken. Puis l'Avalanche, les champions en titre qui sont éliminés en cette match. Et c'est tout à refaire pour cette équipe-là et qui faisait sans la Neskog, faut le dire. Josh Manson qui a des blessés, Kadri qu'on a perdu, Nichushkin qui a quitté la série, entre autres, là, c'est pas mal ça. Mais bref, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ils ont échoué, ils ont des torts certainement, mais il faut féliciter, il faut donner énormément de crédit au Kraken. Comme je l'ai dit, l'Avalanche a eu beaucoup de temps fort, n'a pas reflété quand même son essence. Mais l'essence du Kraken l'a emporté. C'est aussi simple que ça. Là, je ne vais pas aller trop métaphorique. Là. On va aller se coucher à la place. Et c'est ainsi que va se clore cet épisode d'Aux Premières Loges. J'espère ne pas avoir été trop confus durant mes explications. Je suis fatigué. Il est très tard. Je m'en vais me coucher. Et désolé pour le petit blanc, les petits bouts de silence qu'il y a eu à m'amener en raison d'affichage de pointage. Tout le monde est fatigué à 7 heures. Et j'espère que ne vous l'êtes pas au moment d'écouter ceci, si vous êtes rendu ici. Tant qu'elle est rendue là, ben, à l'écouter. Continue à écouter les aux premières loges presque quotidien. Ça, c'est un grand plaisir et on se donne bien du mal pour les faire. Du mal dans du mal, mais on a du plaisir quand même à faire ceci. Voilà. Et c'est ça. Merci à tous les auditeurs. Et à bientôt pour un autre épisode d'Aux Premières Loges. C'était Olivier Prince-Groslot, animation. Salut!